Génération. Dans ce journal, on parlera de la séance à l'Assemblée hier avec des sujets santé, transport aérien et future mission du président du pays. On parlera aussi de la ressourcerie de Maïna et de la libération de requins. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
L'obésité touche 36% des jeunes hommes et 46% des jeunes femmes et la prévention est un échec.
Voilà le constat d'un rapport de la CTC dont Tahiti Info a fait sa une en début de semaine. Il pointe l'échec de la lutte contre l'obésité et donne ses chiffres très inquiétants concernant les jeunes entre 15 et 25 ans. Une situation dont on a parlé à l'Assemblée hier, où se tenait hier la deuxième séance de la session budgétaire et le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, a reconnu cet échec.
Je pense qu'on est dans de l'inefficacité. Il y a eu beaucoup de volonté politique de tous nos gouvernements de vouloir gérer ce problème d'obésité dans notre population. On a essayé toutes les méthodes qu'on nous a données, proposées, mais force est de constater aujourd'hui que le résultat est là, notre population, une personne sur deux est dans un état d'obésité et qu'aujourd'hui chez les jeunes, 36% des jeunes hommes sont obèses et 46% des jeunes femmes le sont aussi. Il va falloir qu'on utilise d'autres moyens de terrain.
Et le terrain, ce sera jusqu'à 200 personnes spécialisées dans la santé, l'alimentation et le sport. Un réseau de volontaires chargés de faire de la sensibilisation et de l'accompagnement. Ces coachs de vie ou de bien-être seront formés aux questions santé, alimentation, activité physique et sportive et ils seront certifiés.
C'est pour ça qu'on va lancer un grand programme, comme on a fait dans le domaine dentaire, avec 80 personnes qui sont allées dans toutes les écoles pour expliquer comment se brosser les dents ou mon ami la brosse à dents. Il va falloir faire pareil pour l'obésité pour que on reprenne les bonnes habitudes pour faire du sport, une meilleure alimentation et on va investir pareil. 80 personnes d'ici le début d'année 2025, puis 180 personnes d'ici fin 2025 pour aller dans chaque quartier, chaque école pour améliorer les choses.
Le ministre de la Santé parle aussi de ce projet de loi sur l'activité physique adaptée. Il doit permettre la prise en charge de sport prescrit par les médecins comme des médicaments. Et puis des lois viendront encadrer la commercialisation des produits néfastes pour la santé avec l'interdiction de vente de certains produits aux environs des établissements scolaires par exemple. Le sucre comme le tabac, même combat. Et puis le gouvernement veut aussi s'attaquer au problème en tapant au portefeuille. Deux options ont été évoquées. La création d'une nouvelle taxe spécifique avec de nouvelles recettes qui viendrait financer la prévention. L'idée serait de graduer cette taxe en fonction des taux de sucre ou de la nocivité des produits. Il s'agit d'encourager les producteurs locaux à améliorer leurs recettes. Et autre option, une augmentation de la TVA. Taxer les saloperies, voilà l'intention du ministre de l'économie avec ces mots.
Ce que je voudrais proposer dès le BP 2025, c'est déjà de mettre de la TVA à 16% sur tous les produits qui sont déjà actuellement soumis à cette taxe sur le sucre. Donc demain, d'un bonbon qui est vendu à 5% de TVA, ça va passer à 16%. C'est augmenter les produits qu'on ne veut pas encourager à plus 11% à la consommation. Évidemment, ça va être inflationniste, mais chacun comprendra que pour les objectifs de santé publique, ça ne pose pas de problème quand il y a l'inflation sur ce genre de saloperie.
Et les ministres veulent aussi s'attaquer aux produits trop gras et trop salés. Et dans l'hémicycle, après la longue lecture des chiffres alarmants de l'obésité, personne n'a réellement contesté les mesures annoncées.
Toujours à l'Assemblée hier, Muitei Brotherson a fait le point sur la situation d'Air Moana.
De nouveaux versements de la Sofidep sont arrivés ou vont arriver. Et il est question aussi d'une participation au capital. Une condition que la compagnie trouve le moyen d'augmenter la part des investisseurs privés pour arriver aux 4 milliards de francs nécessaires. Muitei Brotherson continue de justifier son soutien à Air Moana et reproche à l'ancienne direction d'Air Tahiti de s'être livrée à une guerre sauvage sur les prix.
C'est ça la concurrence, mais quand on fait concurrence avec un PGE de 2 milliards qu'on décide d'utiliser pour casser les prix, est-ce que c'est toujours de la bonne concurrence? Le dernier acte que nous avons entrepris, c'est cette LOI, donc cette lettre d'engagement pour une prise de participation de la Sofidep à hauteur de 1 milliard, tout de même, c'est pas rien. Il y a des conditions pour la mise en œuvre de cette LOI. Nous sommes dans l'attente du retour de la direction d'Air Moana sur ces conditions.
Mais la situation compliquée de la compagnie, c'est aussi pour le président du pays la faute de l'ancien gouvernement. Il avait supprimé la possibilité d'accéder à la défiscalisation locale pour les acquisitions d'ATR, une possibilité rétablie ensuite en août 2023 par le gouvernement Brotherson, une accusation qui a fait bondir Edouard Fritsch.
Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il s'est avancé sur plusieurs sujets. La Sofidep a effectivement fait des avances de trésorerie. Ils attendent le déblocage, mais c'est conditionné à beaucoup de réserves. Il s'est avancé sur effectivement un apport d'un milliard du pays dans la société. Mais la condition, c'est que la société elle-même apporte 3 milliards. La société demande 1 milliard, c'est qu'elle n'a pas les 3 milliards. Ce sont ces engagements qui, aujourd'hui, posent problème à la société. Mais ça n'a rien à voir avec notre gestion.
Pour Édouard Fritsch, les bonnes intentions affichées par le président du pays ne sont donc qu'une façade. Il doute que la proposition du pays suffise à rendre confiance aux investisseurs privés et à sauver Air Moana. Et à noter enfin que le président du pays a également indiqué qu'il faudrait revoir le schéma des transports aériens interinsulaires de la Polynésie.
Politique toujours avec les futurs déplacements de Muay Thai Brotherson.
À Paris, d'abord dans la première semaine d'octobre pour une prise de contact avec le nouveau gouvernement central. L'actualité est chargée pour le ministère des Outre-mer avec les émeutes en Nouvelle-Calédonie et les manifestations anti-vichères en Martinique. Et d'ailleurs, pour Muay Thai Brotherson, on est finalement le bon élève des Outre-mer, tant sur le plan économique que social.
C'est un peu le paradoxe qui est le nôtre aujourd'hui, c'est qu'on est finalement le bon élève des Outre-mer. On a une économie qui malgré tout se porte bien, on a une situation sociale qui malgré tout est positive et face à nous on a d'autres Outre-mer qui sont dans des situations de crise très très profondes. Il y aura forcément peut-être plus d'attention de la part de l'État.
A noter aussi que le budget Outre-mer 2025 va être réduit de 10% entre l'actualité et les finances en baisse. Il ne sera donc pas facile d'avoir cette attention de l'État. Et Muay Thai Brotherson ira ensuite à New York où le cas de la Polynésie française sera entendu le 10 octobre par la 4e commission. Une délégation de 17 membres du Tavini y sera également présente, mais sans Oscar Temaru cette fois.
Et d'ailleurs, le leader indépendantiste va être convoqué par le juge d'instruction.
Et oui, relaxé dans l'affaire de la radio Tefana, mais bientôt reconvoqué pour une autre affaire. Il s'agit cette fois de ses propos sur l'invasion des métropolitains, proférés le 24 octobre 2023 à l'Assemblée. Des propos qui pourraient lui valoir, comme à Roni Teripaya et Mitema Tapati, une mise en examen pour incitation à la discrimination raciale. Son avocat, maître Stanley Cross, a confirmé à Radio 1 que cette convocation va intervenir dans les prochaines semaines. La plainte d'Edouard Fritsch ne visait que le ministre de l'Éducation et le représentant Tavini, mais la justice a décidé d'examiner aussi les déclarations du maire de Faa. Il avait déjà eu affaire à la justice pour de telles déclarations en 2007. Il avait été relaxé après avoir qualifié les Européens s'installant au Fénois de détritus apportés par la mer.
Plus de 6 millions de budget pour la ressourcerie de Maina.
C'est la somme que le pays met à disposition de l'association Tiaï Fénois pour soutenir la première ressourcerie permanente du Fénois. Un grand pas pour l'association qui souhaite en ouvrir d'autres. D'ailleurs, le réseau de ressourceries que l'association veut créer devrait être un des éléments clés du futur schéma territorial de prévention et de gestion des déchets. Depuis l'ouverture de cette ressourcerie il y a 3 mois, près de 4 tonnes de biens ont été revalorisés et c'est aussi côté emploi que la structure pourrait faire la différence. 4 personnes y sont employées et formées au métier d'agent valoriste de biens de consommation. L'association Tiaï Fénois veut d'ailleurs d'ici 2 ans créer le premier organisme de formation au métier du réemploi au Fénois.
Justice maintenant avec la condamnation de l'ancien lagunarium de Punaouia.
Situé à quelques mètres de Captain Bly et reconnaissable à ses gueules de requins en plastique émergeant de l'eau, le lagunarium de Punaouia avait ouvert en 86 et officiellement fermé en 2017. Et pourtant, près de 10 requins étaient retenus encore dans des cages jusqu'en 2022. En toute illégalité, c'est l'intervention des gendarmes qui a permis leur libération et surtout l'action de la fondation Paul Watson. On écoute le trésorier de l'association, Vincent Rivage.
On a fait une enquête pour prouver comme quoi les requins étaient bien enfermés dans des cages et c'est ce qui nous a permis de lancer le procès. Quand on a fait notre enquête, on a pu compter 5 requins pointes noires et 4 requins dormeurs.
Et tout ça pourquoi ? Eh bien, on ne sait pas trop. La gérante n'a pas donné d'explication sur le fait de retenir ces requins, d'autant qu'il n'y avait aucun avantage à le faire.
On n'arrive pas à comprendre le but et la réticence justement des gérants à obtempérer à nos demandes de relâcher les requins. C'est que ça leur apportait aucun intérêt. Je dirais même que ça leur a coûté quelques sous parce que pour que la cage, alors que tu regardes tous les autres cages, sont vraiment toutes effondrées à l'intérieur du lagon. Cette cage-là est encore debout, donc c'est qu'ils devaient quand même apporter un minimum d'entretien. Cette cage. La seule chose qui se passait, c'est que les déchets de poissons du restaurant attenant servaient de complément alimentaire entre guillemets pour les requins.
Du feeding totalement interdit, ce qui a d'ailleurs entraîné la condamnation pour perturbation intentionnelle d'espèces protégées. La société et sa gérante ont été condamnées à 500 000 francs d'amende avec sursis. Par ailleurs, de nombreux déchets métalliques provenant des 3 autres anciennes cages qui retenaient autrefois d'autres espèces aquatiques seraient toujours à l'abandon au fond de l'eau. Et rappelons que Paul Watson est toujours incarcéré au Groenland. Il risque l'extradition vers le Japon, qu'il accuse d'être responsable d'incidents avec leurs baleiniers. Un concert est d'ailleurs organisé au 3B le 1er octobre pour le soutenir, la veille d'une audience devant la justice danoise.
Et enfin, on termine avec cette disparition.
Celle de Tavana Salmon, il avait créé l'une des plus grandes troupes de danse de Hawaï et il était surtout à l'origine du retour du tatouage à Tahiti. C'était une grande figure du renouveau culturel polynésien. Il s'est éteint hier matin à 104 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information avec la revue de presse dans quelques minutes.
Merci beaucoup Lucie, on passe à la météo sur Radio 1. Restez bien avec nous.